Déjà vu, c'est cette sensation si étrangement familière devant une situation pourtant inédite qu'on jurerait qu'elle s'est déjà produite, qu'on l'a déjà vécue, déjà vue. Et pourtant c'est impossible, d'ailleurs on est incapable de situer précisément quand ça a bien pu avoir lieu. C'est une illusion en fait, le déjà vu, une illusion très commune. Ça nous est tous déjà arrivé et ça s'explique. On en étudie depuis longtemps les causes scientifiques, neurologiques, psychologiques. Et l'une des théories, c'est que ce serait un mécanisme de défense, une façon de se protéger, de se rassurer inconsciemment en plaquant sur une situation angoissante, quelque chose de connu, qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà vu, et dont on s'est sorti. C'est troublant. C'est troublant parce que c'est une sensation que je vis beaucoup, moi, en ce moment, en lisant l'actualité, en écoutant les nouvelles, en regardant, par exemple, hier, l'actrice Adèle Haenel parler avec dignité, non pas de son expérience seulement, mais des errances de notre société, de notre collective responsabilité. Quand est-ce que j'ai déjà vu ça? À quoi ça renvoie? À quel moment? Je sais pas si vous le savez, mais l'expression « déjà vu » est employée comme telle dans le monde entier en français. C'est intéressant, je me souviens même d'une nouvelle de Stephen King sur cet étrange phénomène du déjà vu qui avait pour titre « Cette impression qui n'a de nom qu'en français. Déjà vu. »
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, quel passé ressurgit chez mon invité d'aujourd'hui. Elle est comédienne, depuis ses hauts faits de Miss Météo à Canal+, pour vous en parler, j'étais à ses côtés, et depuis son premier rôle au cinéma, surtout dans Monsieur et Madame Adelman, qui lui valait une nomination au César de la meilleure actrice il y a 2 ans, elle a trouvé sa juste place sur grand écran. Demain, elle sera à l'affiche de La Belle Époque, le nouveau film de Nicolas Bedos, l'histoire d'un homme au bout du rouleau à qui l'on propose de rejouer le plus beau moment de sa vie, nostalgie, ironie, amour et comédie. Midi. Bonjour Daria Tillier.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous en avez parfois des impressions de déjà vu, vous?
J'en avais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais ça fait longtemps que ça n'avait pas arrivé. Je dois avoir ne plus avoir besoin d'être rassurée, je ne sais pas.
Inconsciemment en tout cas. Ouais. Si vous aviez la possibilité de choisir, de revivre un moment de votre vie, lequel est-ce que vous choisiriez?
Je pense que ce serait un moment de l'enfance. Je retournerais bien à la kermesse, la dernière avant le collège. C'est la dernière où on a le droit d'être un enfant encore, mais on ne sait pas que c'est la dernière.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait dans cette kermesse?
Je ne sais pas. Je vois les jeux dessinés à la craie sur le goudron de la cour. Je vois ma copine Léna qui jouait au foot avec les garçons, les grandes jupes grises de ma mère, et puis les adultes qui parlent entre eux. Et ces enfants qui ont envie de jouer au chamboule tout pour gagner des paquets dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air génial, c'est la promesse de quelque chose. C'est la promesse de quelque chose, des grandes vacances, sans aucun, avec l'insouciance.
Vous avez quel âge?
9 ans.
Le temps qui passe, c'est le thème central de Monsieur et Madame Adelman, déjà. C'est aussi celui de La Belle Époque. Le temps qui passe, quelle angoisse est-ce que ça représente pour vous?
Pour moi, enfin, je disais tout à l'heure que j'en avais pas avec le déjà vu, mais je dois m'être trompée parce que, en fait, le temps qui passe, c'est pour moi, c'est quelque chose auquel je pense presque tout le temps, parce que c'est la chose la plus insaisissable, le temps. On peut jamais, c'est le seul endroit où on peut pas aller. On peut voyager où on veut, on peut aller, peut-être on ira même sur Mars un jour, mais dans le passé, jamais. Et ce caractère-là du temps passé me chamboule beaucoup. On ne sait jamais, d'ailleurs, les souvenirs, c'est toujours des choses qu'on invente un peu. On ne sait pas exactement quelle est leur réalité. Et c'est comme un roman qu'on a écrit, mais on ne sait pas exactement ce qui est vrai, ce qui est faux.
À votre avis, en quoi la Daria Tillier d'aujourd'hui est-elle très différente de celle qui avait 9 ans, dans toute son insouciance?
C'est ça qui est terrible. C'est que moi, souvent, je repense à moi, à ces âges-là. Je me souviens de quelques pensées que j'avais à l'époque, des notes que je me faisais à moi-même. Mais je dois dire que j'ai oublié beaucoup de choses, quoi. Qui j'étais, je m'en souviens un moyen. Donc je me dis, dans 20 ans, celle que je suis là, au moment où je vous parle, sera un peu morte, ça c'est... pour commencer la journée.
La Belle Époque, c'est donc l'histoire d'un sexagénaire dont le couple est en crise et qui décide de revivre le moment où il a rencontré sa femme 45 ans plus tôt. Cet homme, il est joué par Daniel Auteuil et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très à l'aise avec le présent. Qu'est-ce qui vous embarrasse, vous, dans notre époque, cette époque de dématérialisation, d'hyperconnexion, de réseaux sociaux?
J'imagine qu'on est toujours embarrassé par soi-même, donc on met ça sur le dos de l'époque. Hein. Je suis sûre que dans les années 70, sûrement, les gens devaient aussi se plaindre de leur époque, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ce que vous venez de citer, moi, c'est des choses qui me terrifient, les réseaux sociaux en particulier, parce que Je suis très choquée de voir à quel point les gens sur les réseaux sociaux sont des personnes différentes de ce qu'elles sont dans la vraie vie.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la mise en scène en fait, la mise en scène de soi.
Oui, exactement, mais une mise en scène de soi qui n'est pas, je trouve, un meilleur soi. C'est-à-dire qu'encore, on serait meilleur sur les réseaux sociaux, mais non, moi, des gens que je fréquente dans la vraie vie, quand je vois ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, je me dis, mais s'ils étaient comme ça en vrai, je ne les fréquenterais pas. Donc, je me dis, mais est-ce qu'ils sont en train d'être comme ça sur les réseaux sociaux? Ça veut dire que demain, ils seront comme ça dans la vraie vie? J'espère que non, mais...
C'est vertigineux, en tout cas. Quand est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment vous-même, vous, Doria Tillier?
Tout le temps, j'espère.
Là, par exemple, ce matin?
Ouais.
Ça veut dire que vous mentez pas? Rien du tout?
Non.
Je peux vous poser des questions, alors?
Oui.
Ok, votre plus gros défaut, ce serait quoi?
Ah, je suis négative. Je vois toujours ce qui va pas en premier.
Votre plus belle qualité?
L'honnêteté.
Qu'est-ce qui vous fait aimer?
Quelqu'un qui pense par lui-même.
Votre couleur préférée?
Le rose.
La faute qui vous inspire le plus d'indulgence?
La lâcheté.
Celle qui est impardonnable, en revanche?
L'hypocrisie qui consiste à prendre la parole pour exprimer une conviction que, dans le fond, on n'a pas réellement parce qu'on n'y a pas pris la peine d'y réfléchir.
Votre gros mot préféré?
Merde.
Votre mot préféré?
Bilvesé. Les bilvesés.
Ça veut dire quoi?
Ce sont des propos dénués de sens, sans intérêt. Voilà, je trouve ça joli.
Le livre qui vous a bouleversé?
Je crois que c'est Lolita.
Le super pouvoir que vous aimeriez avoir?
Ah bah, arrêtez le temps.
Un plaisir coupable?
Michael Jackson.
Un péché?
Ah, la paresse.
Et si vous étiez une divinité?
Dieu. De toute façon, j'y crois pas.
Un rêve qui vous obsède, Doria Tillier?
Il y a un rêve, oui. J'en fais beaucoup. Il y a quelques années, j'ai fait sur le temps, justement, avant mon anniversaire, la nuit de mon anniversaire, j'ai rêvé de moi. Je me voyais avec ma classe en classe de mère et je voyais tous les enfants. Et dès que j'essayais de saisir un objet du décor, de le toucher, et ben, il partait en fumée. Voilà, un rêve sur l'insaisissabilité du temps.
La situation qui vous fait le plus rire?
Le ridicule, mais dans un cadre bienveillant. Genre la feuille de salade sur l'incisive, mais en famille.
La citation qui vous fait le plus rire?
Myope des yeux, myope du cœur et myope du cul.
Le pire surnom qu'on vous ait jamais donné, Doria Tillier?
Dorifice.
Ah, l'objet du quotidien que vous pouvez pas quitter?
Oh, il y en a pas.
Le paysage dont vous pouvez pas vous passer?
Oh, la campagne, celle de la maison de ma grand-mère dans le sud, la garrigue.
Le goût de votre enfance?
C'est les Yes, ma mère posait des Smarties dessus, elle me donnait ça au goûter et ça faisait un cocktail explosif comme ça, de chocolat, en crème, en génoise, en glaçage, sucré quoi.
Le parfum de votre vie?
Oh, le parfum de ma vie, bah le parfum du soleil dans la garrigue au mois de juillet.
Et la dernière chose que vous aimeriez regarder quand tout sera presque fini?
Puisque j'ai le choix, un monde apaisé.
Nous, c'est la culture, figurez-vous, dans cette émission. La culture et son actualité qui est pourtant irregardable, surtout à la radio, dans cette émission. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 5 novembre?
Pour moi, c'est pas l'idée de tracer le camp du mal et le camp du bien, mais c'est d'ouvrir la parole, quoi.
Après la publication dimanche d'une longue enquête de Mediapart dans laquelle l'actrice Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'agression, de harcèlement, de violence sexuelle alors qu'elle était mineure, la Société des réalisateurs a voté hier l'exclusion du cinéaste, une première pour l'association que Christophe Ruggia avait coprésidée à plusieurs reprises. Dans un communiqué, la SRF a exprimé son soutien total, son admiration et sa reconnaissance à la comédienne qui a eu le courage de s'exprimer après tant d'années de silence. Sassem, ton prochain. Hier, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a révélé le palmarès de ses Grands Prix 2019. En tout, 19 récompenses ont été distribuées, dont un prix spécial pour Am 50s, premier album solo du Grand Souchon en 11 ans. Parmi les autres lauréats, on retrouve notamment Clara Luciani qui repart avec le prix de la chanson de l'année grâce à sa Grenade, ou Oxmo Puccino qui remporte les lauriers dans la catégorie des musiques urbaines, c'est bohème.
Quand les gens viennent, on leur raconte une histoire. Et la cuisine, elle doit raconter mon histoire, l'histoire de ma région. La cuisine, c'est au-delà des recettes.
Donc quelle est belle la vie, le chef Arnaud Donquel a été désigné hier cuisinier de l'année par le prestigieux guide Goemio pour son édition 2020 qui sort aujourd'hui. Déjà couronné de 3 étoiles au Michelin, cuisinier des chefs d'État lors des sommets français, Donquel a été récompensé pour sa cuisine poétique qu'il fait découvrir dans son restaurant tropézien La Vague d'Or. Bravo Nono.
Écrire pour moi c'est avant tout une manière de vivre.
Enfin, Dubois précieux, c'est donc Jean-Paul Dubois qui décroche hier le Goncourt 2019. Pour tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Dans le même temps, les jurés du Renaudot ont créé la surprise en sacrant Sylvain Tesson, dont le roman La Panthère des Neiges ne figurait pas sur la liste finale. Le journaliste Éric Neuf complète ce podium très masculin en raflant le Renaudot essai avec son très masculin, très très masculin, cher cinéma français. On attend désormais le Fémina qui tombera vers midi. Pourquoi pas une femme, tiens, cette fois-ci? Et la comédienne Doria Tilly, invitée de Boomerang ce matin pour son rôle dans La Belle Époque en salle Demain, un film dans lequel vous jouez le rôle d'une comédienne. Une comédienne d'un genre un peu particulier puisque ce n'est ni au théâtre ni au cinéma qu'elle officie, mais dans des reconstitutions historiques organisées à la demande de riches clients. Et ce que le film donne à voir, c'est en fait un gigantesque studio avec des décors, des costumes, des figurants, des coulisses. Les coulisses, la coulisse, Doria, quel lieu est-ce que c'est pour vous?
C'est drôle que vous me parliez de ça parce que c'est le lieu qui m'a donné envie de faire ce métier. Moi, quand je suis allée la première fois au théâtre, j'accompagnais mes parents qui allaient voir une amie qui jouait dans une pièce de boulevard. Et du coup, j'avais accès à cette coulisse. Et c'est ça qui m'a fascinée. C'est de voir ces acteurs derrière qui buvaient du whisky, enfin, je sais pas ce qu'ils buvaient, ils fumaient des cigarettes, ils faisaient des blagues. Alors, je les comprenais pas, mais ça m'avait l'air génial, cette coulisse, ce qui se passait derrière. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie au départ de faire ce travail.
C'était quelle pièce? Vous vous souvenez? C'était où?
Oui, alors je sais pas où c'était, mais c'était une pièce qui s'appelle Sexe et Jalousie. Déjà rien que le titre, moi je devais avoir 6 ans, donc le mot sexe me fascinait un peu. Et voilà, c'était vraiment un vaudeville comme ça, quoi.
En fait, j'ai l'impression que ce qui vous a intéressé, c'est aussi l'aspect artisanal, en fait. C'est l'idée de fabriquer quelque chose, d'être intégré au processus de fabrication d'une œuvre. En tant que comédienne, est-ce qu'on vous laisse suffisamment proposer, créer?
Écoutez, ouais, je trouve que, je sais pas si c'est assez, parce qu'on, moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir beaucoup diriger les choses, donc je peux parfois être frustrée de ça. Mais dans l'absolu, c'est marrant parce qu'on parlait hier, qu'est-ce que c'est de ce métier-là. Et je trouve quand même que, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre texte, on a toujours une marge de manœuvre. C'est-à-dire quand on joue, enfin, moi, je sais que quand je joue, je pense toujours, quand même, il y a une part de moi qui pense au spectateur, au public, même si c'est devant une caméra, parce que, je veux dire, bon, si on est à 100% dans son rôle, déjà, on n'en sort pas. Ça n'a pas, on est à 95% dans son rôle et puis à 5% en train de quand même se mettre en scène et de jouer avec ce public-là pour qui on est en train de faire ça, d'avoir cette connivence avec lui. Donc, oui, il y a une mise en scène d'un sourire, d'une façon d'exprimer certains sentiments. Je trouve que oui, il y en a.
Sur le précédent film de Nicolas Bedos, vous étiez co-scénariste. Ça vous a manqué pour La Belle Époque, cette responsabilité-là?
Non, pas du tout. Franchement, là, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup son écriture, donc c'est pas comme si je pouvais être frustrée par une écriture que je trouve pas assez riche ou pas assez... Voilà, là, franchement, je trouve que je n'aurais pas eu de valeur ajoutée à ce scénario, honnêtement. Donc,
dans quelle mesure vous êtes intervenue? Parce que quand on a co-écrit le premier film, je suppose qu'on intervient quand même dans le deuxième, non?
Franchement, assez peu, en fait. Il m'a envoyé le scénario... Et je crois que j'avais dû dire genre no notes, un peu pas de commentaires, pas de remarques. J'avais très peu, non, j'avais rien à dire de négatif en tout cas. J'ai dû soumettre vraiment une ou deux idées, mais tellement merdiques que c'est pas intéressant, je m'en souviens pas.
Dans le film La Belle Époque, votre personnage qui est comédienne donc reproche à son compagnon metteur en scène de ne pas la laisser improviser. Improviser, c'est quoi pour vous? Ça passe par quoi, Doria Tillier?
C'est vrai que pourtant c'est un film par exemple sur lequel il y a eu peu d'improvisation. Improviser c'est se servir de ce qui crée le moment, de ce qui nous entoure pour rendre ce qui était prévu un peu mieux. C'est ça improviser, c'est-à-dire.
Alors on le fait tout le temps, je suppose.
Dans la vie, on le fait tout le temps. Enfin, certains le font pas très bien, mais oui.
Et vous le faites bien, vous improvisez bien dans la vie?
Ça m'arrive quand je suis en forme. C'est très aléatoire. Et parfois, ça me frustre. Alors, je peux m'en vouloir beaucoup d'avoir pas su faire le meilleur d'une situation. Ce qui m'arrive souvent, en fait.
Quand est-ce que vous avez commencé, au fond, à jouer? Tant y a-t-il à faire du théâtre?
Je pense que c'est assez jeune, mais au début, c'était en très petit comité. C'est-à-dire que moi, je me souviens, par exemple, de mon premier petit ami, j'avais 17 ans, et à qui, au bout de quelques temps, je sais pas, on était devenus un peu plus intimes, et puis un soir, je m'étais mise comme ça, je me rappelle, on était assis sur le lit, et puis je m'étais mise à délirer, puis à lui faire des personnages, et il avait halluciné, il me disait, mais t'es un clown, en fait, et il l'avait jamais vu, parce que j'exprimais pas ça, à moins de me sentir très en confiance. Voilà.
C'est vrai que les cours de théâtre, au début, vous trouviez ça affreusement embarrassant.
Ah ouais.
Pour quelle raison?
Bah, vous y avez déjà été?
Non. Ça se verrait, ça se saurait.
C'est-à-dire qu'on nous demande de faire des choses franchement assez ridicules. Mais je dis pas que ça sert à rien. Moi, j'y ai appris beaucoup au cours de théâtre. Mais déjà, ne pas avoir peur trop du ridicule.
Que les exercices de diction, ce genre de choses?
Ah non, ça va, les exercices de diction. Non, ce qui est ridicule, c'est quand on nous demande de singer un singe, par exemple, ou un animal.
Ah, d'être une plante,
ouais. Être une plante, et encore ça va, parce que la plante est silencieuse, Augustin. Contrairement à la girafe qui doit pousser des cris.
Vous nous faites la girafe, là?
Ah, mais je sais. Non. J'ai essayé, là, non. Vous voyez, très mauvaise impro.
Ça a été au point de vous faire ravaler vos ambitions de comédienne?
Non. Mais j'avais pas tant d'ambition que ça, en fait. Je voulais faire ça, mais en fait, je voulais divertir. C'est ça. Moi, je voulais divertir. C'est là que vient de mon envie. Moi, pareil, quand j'allais en vacances, j'étais allée en vacances dans une sorte de club med. Et ben, il y avait les animateurs là qui faisaient leur spectacle. Je voulais faire ça en fait, divertir.
Vous avez pu chanter alors?
Oui, tout à fait.
Mais alors, devenir chanteuse, pourquoi est-ce que vous l'avez abandonnée?
Ah non. Pourquoi je l'ai abandonnée? Parce que j'ai pas non plus. J'adore chanter, mais j'ai pas une grande voix, quoi. Franchement, ça n'a pas d'intérêt pour les gens.
Parce que vous me voyez venir là.
J'ai
très peur. Ouais. Il se trouve que effectivement. Dans la belle époque, vous chantez une chanson qui s'appelle Me and Barbie McGee,
oui,
popularisée par Janis Joplin, une chanson de Kris Kristofferson et de Fred Foster de 1970. Ça fait comment déjà?
Oh là là, ça fait Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and it's feeling nearly as faded as my jeans. Barbie thumbed a diesel down. Just before it rained, he rode us all the way to New Orleans. Encore! I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers, slapping timers, holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driver knew.
Ah bah là, on a envie de l'entendre.
Ah oui, s'il vous plaît.
On a envie de l'entendre. Eh ben, on l'entend. Vous êtes sur France Inter avec Doria Tillier. Vous écoutez Boomerang, évidemment. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down. Just before it rained, took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to everything I've done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her
slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I'd trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy loving. Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Da 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 me and Bobby McGee. Da 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 me and Bobby McGee.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On est quelque part entre la Dory du monde de Nemo, Dora l'exploratrice dans sa version pour adultes, et un tagine. Elle a les membres longs et lianes comme élastique. La danse saine est bavarde, l'œil pétillant et fripouille. On l'imagine aisément dans un remake d'Indiana Jones à braver des murs de lianes, des momies à l'haleine fétide et les serpents géants, la terre sur les joues, la transpiration, le mollet galbé avec son petit haut noir. Ce matin, la comédienne Doria Tillier, invitée de Boomerang pour La Belle Époque en salle demain, un film, on le disait, qui dit aussi quelque chose de ce qu'est une comédienne. Après tout, c'est une comédienne que vous incarnez, et je pense à la première scène où apparaît votre personnage qui joue dans une pièce de théâtre devant une salle presque vide. Ce vertige de solitude qu'elle semble ressentir, qu'est-ce qui vous inspire, à vous, Doria Tillier?
Ben c'est vrai que ça me fait un peu repenser à ce dont on parlait tout à l'heure, au rapport avec le public. Pour moi, jouer, c'est vraiment en fait penser toujours à celui pour qui on joue. Parce que on joue pas seul. Ou alors c'est autre chose, ou alors c'est qu'on est fou. Mais quand on dit qu'on joue pour vivre d'autres émotions, d'autres vies, c'est pas que ça, je trouve, parce que si on veut vraiment vivre ce qu'on est en train de jouer, bon, parfois on n'a qu'à le faire dans la vraie vie, non. Je pense qu'on joue pour montrer aux autres la vision qu'on a de cette situation-là. Et s'il n'y a pas de public, on peut pas jouer. Il faut au moins qu'on l'ait dans la tête.
Ça en fait une expérience terrible qui correspond à très peu de gens, en fin de compte. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut de la patience pour faire ce métier?
Je pense que il faut de la patience, il faut aussi un peu d'insouciance, même de naïveté, enfin de folie quoi en fait, parce que franchement, si j'avais su comme il y avait peu de chances que ça marche quand j'ai commencé, je suis pas sûre que j'aurais essayé.
Je vous pose la question parce qu'après votre départ du Grand Journal de Canal+ en 2014, on aurait pu s'attendre à vous voir partout au cinéma. Pourtant, il a fallu attendre 3 ans pour vous découvrir dans votre premier long métrage que vous aviez coécrit. On vous proposait rien?
Si, on me proposait des choses, mais c'est vrai que bon, moi j'ai ma plus grande peur. On me demandait l'autre jour, mais ma plus grande peur, c'est de faire des choses que je n'aime pas, que je trouve mauvaises. Je dis pas que je ne ferai que des choses géniales, hein, mais j'essaye de ne pas faire de choses que je n'aime pas. Et c'est vrai que ce qu'on me proposait à l'époque, en tout cas, m'avait pas plu à moi, où je ne voyais pas ce que je pouvais en faire. Et puis en plus, en fait, bon, c'est des délais qui paraissent pour le public peut-être ceux qui s'y intéressent longs, mais en fait, je suis pas restée sans rien faire. Hein. Moi, j'ai arrêté le Grand Journal et puis je me suis mise à écrire tout de suite après.
Parce que ce qu'on vous envoyait, en fait, ça vous amusait pas, ça vous faisait pas rire?
C'est pas seulement que ça me faisait pas rire, mais c'est que, enfin, il y avait de ça. Il y avait aussi que moi, je ne voyais pas la valeur ajoutée que je pouvais avoir dans les rôles qu'on me proposait. Et puis, oui, franchement, je trouvais pas ça génial.
Quand est-ce que vous avez su votre valeur ajoutée, Doria Tillier?
Je trouve que ça vient au fur et à mesure par touche. Il n'y a pas un jour, malheureusement, on se réveille, on se dit « Ah tiens, je sais faire ça !» C'est-à-dire, on s'aperçoit un jour que tel sourire a plu à quelqu'un, ou que tel qu'on est malin sur ça, ou voilà, ça se construit au fur et à mesure. D'ailleurs, je ne sais toujours pas, je ne pourrais pas l'exprimer, mais c'est vrai que je sais mieux qui je suis.
Et que vous étiez drôle?
Que j'étais drôle, ouais, peut-être... vers la fin de l'adolescence.
Cette même scène avec votre petite amie, là, du départ?
Ouais, on va dire un truc dans le genre, parce que moi, je me faisais rire, mais... mais un peu toute seule, et puis mes parents, mais bon, voilà, c'est pas...
Et puis dans cette expérience, ce que j'aime bien, c'est que vous vous glissez aussi dans la peau de plusieurs personnages, et c'est ce qui frappe dans La Belle Époque, cette façon que vous avez sans arrêt de changer, hein, de costume, changer de personnage,
oui,
au point d'en être parfois méconnaissable. Pourquoi vous adorez?
Parce que, pour moi, la notion de plaisir, elle a beaucoup d'importance dans le travail que je fais, et il faut que je m'amuse. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose de l'enfance à mettre une perruque, à se costumer.
Le déguisement.
Le déguisement, exactement. Moi, j'ai toujours adoré les soirées déguisées, les choses comme ça. Et là, c'est vrai que dans un même film, un coup, je suis debout en mini-jupe transparente, en train de danser sur une table avec des pétales de rose qui me tombent dessus. La scène d'après, je suis mère de famille avec les cheveux courts, habitée dans un pavillon de banlieue avec mes enfants. Ensuite, je suis polonaise en petit peignoir, avec un accent. Enfin, j'ai mis le rôle dans un rôle. Et c'est très excitant, c'est très amusant, parce qu'on amuse aussi. Moi, ne serait-ce que divertir les gens qui travaillent avec moi sur le plateau, ma coiffeuse, ma maquilleuse, qui sont avec moi tous les matins quand on fait un film, et de les amuser, de leur dire « Ah ben, aujourd'hui, je vais vous faire un accent polonais », c'est drôle.
Incarner un rôle, ça tient à quoi, en fin de compte, pour vous ?
Oh là là, oh la question vaste, merde, je sens que je vais me perdre là-dedans. Je pense que ça tient encore à l'envie de divertir et de dire à quelqu'un, voilà ma vision de ce que vit cette personne, de ce que vit ce personnage.
C'est mentir un peu aussi.
C'est mentir un peu, mais c'est surtout dire la vérité en fait, je trouve, parce que moi, les acteurs que j'aime, je les aime pas. Enfin, bien sûr, ils ont des qualités d'interprète. Enfin, quand je pense, je sais pas, à Robin Williams ou Meryl Streep, je les aime pas pour leur savoir-faire d'acteur, même s'ils sont très bons. Je les aime pour ce qu'ils sont et ce qu'ils nous montrent d'eux. Je les aime pour le regard et pour ce que je devine qu'ils ont vécu ou qu'ils pensent de la vie.
Pourtant, ils ne sont pas forcément naturalistes, toujours.
Non, mais néanmoins, dans un sourire ou dans un regard, je peux me tromper, mais j'ai l'impression de percevoir qui ils sont.
Quel genre de spectatrice est-ce que vous êtes, vous ? Boulimique, fine bouche, apathique ?
Moi je suis... C'est-à-dire que je peux être dure avec les films... Mais j'adore tous les acteurs, donc j'adore les regarder, j'adore les personnages, j'adore les acteurs, et même un acteur que je trouve parfois un peu moins bon, je vais quand même l'aimer. Mais je dis que je suis dure avec les films, c'est pas vrai, parce que franchement...
Mais c'est intéressant que vous sortiez d'un film en regardant l'acteur, après tout c'est votre métier. Quelle est la plus grande performance d'acteur que vous ayez jamais vue, celle que vous admirez?
Mais justement, moi je le compte pas, j'aime pas d'ailleurs ce mot performance, vous voyez, il y a un truc, je compte pas comme ça, je pourrais pas dire la plus grande, je pourrais dire à la limite les acteurs qui m'ont marqué le plus, et justement je les ai cités tout à l'heure. Oui, ce serait Robin Williams, Meryl Streep, mais je dis Robin Williams, oui c'est vrai que moi les acteurs, souvent qui m'inspirent le plus ou que j'aime le plus, ça a peut-être été des acteurs qui venaient de la comédie, même s'ils m'ont beaucoup fait pleurer. Mais Jim Carrey, Robin Williams, c'est des gens que j'aime beaucoup.
Et les actrices aussi.
Oui,
vous savez, vous savez que je sais, Doria Dib, parce que vous me l'avez soufflé dans le cadre de votre carte blanche, je sais les actrices qui vous ont inspiré. Et moi, j'ai envie de les entendre ce matin. Si je vous dis, par exemple, Anémone dans Le Père Noël est une ordure.
Oh ben c'est tout la Croix-Rouge, ça, Augustin. Dites, il me demande de faire des gants à trois doigts pour les petits lépreux de Jakarta. Dites, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles?
Brigitte Bardot, dans Le Mépris.
Je te pardonnerai jamais. Je te mets tellement. Maintenant, c'est impossible. Je te déteste parce que tu n'arrives pas à m'attendrir.
Fanny Ardant, dans Pédale douce.
Je déteste la chasse. Je suis pour la chirurgie esthétique. J'ai milité pour l'avortement. Le fanatisme me rend folle. J'adore Picasso. J'ai du mal avec les apparts où rien n'a changé depuis 100 ans à part l'électricité. Et je préfère dîner avec des travestis qu'avec des cafards.
Julia Roberts dans Pretty Woman.
Beaubrun, je vais tellement vous bichonner que vous aurez plus jamais envie de me laisser repartir.
La petite sirène, Ariel.
Je ne vois pas les choses à sa manière. Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait être aussi barbare?
Delphine Seyrig dans Peau d'âne.
Allons, ne pleurez pas mon enfant. Les larmes abîment et creusent le visage.
Catherine Jacob dans La vie est un long fleuve tranquille.
Oh, mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Madame, je vous jure.
Meg Ryan dans Quand Harry rencontre Sally.
Oh.
Ah non.
Oh God.
Oh. Arletty dans Hôtel.
Yes.
Je vous coupe. Arletty.
Yes.
Dans Hôtel du Nord.
Quand Carmi à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique.
et sur l'oreiller, on se comprend.
Je l'adore. Vic, dans la boum.
De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or et que j'ai raccourci ma frange, je vous l'avais même pas vu. J'ai plus rien à me mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire essilter mes leçons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
Qu'est-ce que vous avez?
13 ans.
Merci, Toria Tillier. Merci d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que La Belle Époque de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet et Pierre Arditi, entre autres, sort demain. C'est une ode à l'amour, tire la ficelle de la mise en scène qui saura vous procurer un remède à la malédiction du temps qui passe. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Une autre fois, bien sûr qu'on a des skills, bien sûr qu'on s'amuse bien, mais pas besoin de le dire à haute voix. Profite de maintenant, c'est simple comme au revoir. Je connais mes talents, ton corps, mes lèvres, un matelas. Bientôt, je sens plus ma langue, mord le coussin, crie à toi de voir. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain. Le désir passe, je suis pas sûr qu'il ait bien fait s'avancer d'un pas. Elle refuse puis elle cède un peu, ça va les rendre fous comme la bougie d'anniversaire qui s'éteint pas. Bien sûr il s'agit pas de nous, ces histoires l'amour hippie. Baisse-moi avec de l'amour hippie, t'es pas très belle mais t'as beaucoup de charme. J'ai encore du miel sur les lèvres, je suis un goujat. Qui peut se moquer durant toute la prémongaine. Ce monde est froid comme au quai, glisse-toi entre mon corps et la moquette. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain.
Regarde-moi, l'homme pâle sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers.
Avec Sonia De Villers, elle est là.
Elle est là.
Salut Augustin, à demain.